Les surfaces agricoles reculent.
La biodiversité est menacée partout.
On nage dans l'irrationalité.
On peut faire tellement plus. Peut-être sauver ce monde.
So Good Radio.
10 minutes pour sauver le monde.
Vous êtes bien sur So Good Radio, bienvenue dans 10 minutes pour sauver le monde, l'émission qui prend la meilleure part du gâteau même quand la pâte a des grumeaux. Salut Célia.
Salut Luna.
Et pour nous accompagner aujourd'hui, on accueille Douce Dibondo, autrice de l'ouvrage La charge raciale, vertige d'un silence écrasant. Comment ça va Douce?
Bah ça peut aller, j'essaie de faire au mieux.
Douce, je crois savoir que tu affectionnes l'astrologie. Est-ce que tu es entre de bons astres aujourd'hui avec
Disons
nous
Disons que Pluton en Verseau est là pour renverser plein de systèmes et ça me fait plaisir.
Ça fait un grand plaisir, merci beaucoup pour cette petite séance d'astrologie. Avant de te laisser la parole, Douce, place à l'actualité avec Célia.
10 minutes pour sauver le monde.
So Good Radio.
So Good.
En Martinique, y a-t-il espoir d'obtenir réparation pour les victimes de la grève meurtrière de 1974?
La Martinique commémore cette année les 50 ans de la grève des ouvriers de la culture de bananes, où la gendarmerie fit 2 morts et plusieurs blessés.
Tout commence le 17 janvier 1974, quand les ouvriers se mettent en grève, leurs revendications de meilleurs salaires et l'interdiction des pesticides dans les bananeraies.
À l'époque, dans les Antilles françaises, le chlordécone est utilisé depuis un an dans les cultures sucrières et bananières. Le chlordécone, c'est ce pesticide cancérigène utilisé pendant 20 ans en Guadeloupe et en Martinique. Il a contaminé les corps et les terres pour des centaines d'années à venir. D'ailleurs, une étude récente de Santé publique France montre que plus d'un Antillais sur 9 est actuellement contaminé par le chlordécone.
Un mois plus tard, le 14 février 1974, les grévistes organisent une grande manifestation sur le plateau de Charlevet à Basse-Pointe au nord de l'île.
La gendarmerie est envoyée et tire sur les participants-participantes. Ilmany Serrier, 55 ans, est tué par les gendarmes et des dizaines de personnes sont blessées par les balles. Deux jours plus tard, c'est le corps de Georges-Marie Louise, un jeune homme de 19 ans qui est retrouvé mutilé sur la plage. Ces deux meurtres signent l'arrêt de la grève et ce qui est fou, c'est qu'aucune procédure judiciaire n'a été réalisée depuis pour identifier les responsables.
Pour apporter une réparation morale et judiciaire, deux initiatives viennent d'être annoncées. La première, c'est celle de la mairie de l'Union Générale des Travailleurs de Martinique qui revendique la levée de la prescription des violences commises par l'État en 1974.
La deuxième initiative, c'est celle du député de gauche Marcelin Nadeau qui devrait demander à Emmanuel Macron la déclassification des archives et à l'Assemblée nationale la création d'un comité d'experts afin d'enquêter sur cette fusillade du 14 février 1974. Douce, pourquoi pour toi c'est important d'avoir une réparation et une reconnaissance de la part de l'État face à ces événements meurtriers et est-ce que ces demandes de réparation peuvent être abouties?
Alors oui, la question de manière symbolique en fait déjà, demander réparation c'est une forme d'espoir en fait pour les personnes qui ont de loin ou de près perdu déjà des êtres chers. Et donc au niveau du symbole, c'est très fort. Et aussi au niveau de la justice, en fait, le fait d'avoir ce point d'accroche-là, cet horizon de réparation, c'est très important. Et là, que le fait que l'État concède, on va dire, en tout cas, va sur ce chemin-là, je trouve que ça porte espoir, parce que ça montre bien à quel point, en fait, les corps des personnes noires, les corps des personnes racisées, ne sont pas faits pour le soin, notamment là avec les violences policières, avec le chlordécone, c'est des choses qui perdurent même jusqu'à aujourd'hui. Donc le fait que cette affaire-là soit réparée, ça peut déboucher aussi sur une réparation plus grande, plus large, sur ce que l'État français a commis aux Outre-mer et peut-être partout dans le monde en tant qu'ex-empire colonial.
Merci beaucoup Célia pour cette actualité. On continue l'émission. Douce, tu es journaliste, tu as notamment co-créé le podcast Extimité, où les invités venaient partager leur vécu, leur intime face aux discriminations. Tu es également autrice, tu as rédigé un recueil de poésie nommé Métacure. Ton dernier ouvrage en date, c'est Charge raciale, vertige d'un silence écrasant, aux éditions Fayard. Dedans, tu analyses la charge, le poids de la violence du racisme. Tu dis que cette charge raciale, elle a 3 dimensions. Est-ce que tu peux nous les décrire un petit peu?
Oui, alors il y a une dimension qui est matérielle, donc qui fait appel à l'histoire. Hein, comme je le disais, les personnes racisées, il y a 400 ans, en fait, elles ont signé un contrat qui ne leur appartenait pas, c'est-à-dire avec le contrat racial que les empires coloniaux ont fondé. On s'est rendu compte, en fait, que et ce passé-là nous influence jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce poids, ce fardeau de l'histoire est une charge raciale. Et il y a aussi donc la charge que j'appelle interpersonnelle ou institutionnelle. Donc, notre rapport aux institutions, qu'elles soient de l'ordre de la police, du médical, au sein du couple, des relations amicales. C'est donc une charge raciale qui traverse en fait toutes ces institutions-là. On le voit justement avec les violences policières, on le voit avec les violences obstétricales notamment, et aussi avec le syndrome méditerranéen qui touche pas mal les personnes racisées, qui est un syndrome qui n'existe pas, évidemment, qui prend racine dans une conception très racialiste en fait de la douleur. Et enfin, il y a une charge que j'appelle intrapersonnelle. Cette charge-là, c'est la part indicible, c'est la part qu'on ne peut pas nommer parce que le racisme, les questions raciales ne sont pas, n'ont pas la possibilité d'être discutées publiquement sans émotion très forte en France. Et donc cette part-là, c'est ce qui nous rend malade, c'est ce qui nous rend anxieux, c'est ce qui nous fait somatiser parfois parce qu'on est tout le temps dans l'hypervigilance, parce qu'on est tout le temps obligé de porter un masque pour correspondre à ce que la société attend de nous, une société majoritairement blanche.
Le syndrome méditerranéen, c'est quand on présuppose que les personnes résistent mieux à la douleur, c'est
oui, ou exagèrent la douleur, parce que le racisme est toujours paradoxal dans tous les cas.
Ton identité, c'est d'être la créature rapée. Que disent la science et la messe, toutes les grandes puissances du monde et la presse, que cette noirceur en présence dans la pièce nous est inférieure comme la chienne et la neige.
Créature ratée de la rappeuse Kaizee, que tu cites dans ton livre. Dans ce morceau, tu dis qu'elle décrit le concept d'altérisation. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est et pourquoi ça fait partie de la charge raciale ?
Oui, en fait, se voir toujours à travers le regard du dominant nous fait comprendre qu'on est autre et qu'on ne sera jamais dilué dans le corps social, qu'on ne sera jamais dilué dans la France comme l'inconscient collectif l'imagine. Parce que la France, elle est blanche, elle est masculine, donc elle a en son sein des majoritaires. Sauf que nous, on est comme un virus, en fait, que la France essaie de nettoyer, d'expulser. Et donc, on est toujours l'autre. Et je parle de ce concept-là, de l'altérisation, qui aussi porte aussi en lui la déshumanisation. Donc Kaizee le dit bien, quoi, cette noirceur qu'on compare à la chienne, en fait, c'est-à-dire cette animalisation, cette altérisation. Et faut comprendre que à partir du moment où il y a eu tout ce qui était science ethnologique, par exemple, on a tracé une ligne imaginaire où il y avait donc le nous, mais j'ai du mal à dire le nous, parce que moi j'étais de l'autre côté, c'est-à-dire les sociétés primitives, les sociétés en Afrique, les sociétés dans les Amériques, qui étaient perçues comme sauvages, primitives, barbares. Et donc ce nous-là, de l'Occident, se pensait supérieur, se pensait supérieurement intelligent, culturellement, etc. Et donc ça perdure aussi dans la manière dont les corps noirs sont perçus, dans la manière dont mes cheveux vont être perçus dans un entretien, par exemple, parce que j'ai des locks, et que ça rappelle donc le mouvement Rastafari, donc les drogues. Enfin voilà, il y a tout un truc autour de nos cheveux qui ne sont pas professionnels, en tout cas ne sont pas perçus comme tels. Donc voilà, c'est toujours cette hyperconscience d'être l'autre, et ça nous effracte, ça nous met en dissociation, en fait. Et c'est là où se niche aussi cette charge raciale, en effet.
Et tu dis, pour faire face à cette altérisation, cette distinction, tu expliques que les personnes noires changent leur comportement au travail, dans la rue, face à la police, qu'elles font preuve d'une capacité d'adaptation qui est hors norme. Et tu voulais, toi, justement, revenir sur la mort d'Adama Traoré lors d'un contrôle de police en 2016. Récemment, le parquet général a reconnu un lien de causalité entre sa mort et son interpellation. Pour toi, c'est historique comme décision ?
Oui, c'est historique parce que reconnaître la causalité, donc ça fait quasiment 8 ans, que donc Assa Traoré, la sœur d'Adama Traoré, se bat, lutte sans cesse pour reconnaître qu'il y a eu ce lien de causalité et que ce n'était pas Adama qui avait une santé qui n'était pas tout à fait bonne. Et donc ça, c'est, je pense que ça peut ouvrir quelque chose d'historique, non pas dans la condamnation des policiers. La justice fera ce qu'elle a à faire, mais en tout cas, reconnaître, tout comme la réparation, c'est déjà symbolique. Ça veut dire qu'on gagne du terrain, ça veut dire que l'opinion publique met la pression aussi sur la justice et ce qui est désormais acceptable ou non. Ça va être long, le chemin va être long, mais ça me donne espoir aussi.
Dans ton ouvrage, tu parles de déni d'individuation en citant par exemple la mort de George Floyd. Est-ce que pour Adama Traoré, ça peut aussi s'appliquer ?
Bien sûr, ce déni d'individuation. Pourquoi j'en parle ? Je l'évoque parce qu'il il fait écho au racisme vicariant. C'est-à-dire le racisme vicariant, c'est pour les personnes racisées, c'est de voir autour de soi la mort. C'est de sentir qu'il y a en fait en permanence un danger de mort. Que ce soit, je ne sais pas, une connaissance, une femme noire qui va accoucher et qui potentiellement va se voir infliger une césarienne alors qu'elle n'a rien demandé, mais parce qu'il y a tout un des stéréotypes autour des femmes noires et de l'accouchement. C'est donc justement ces violences policières-là qui peuvent advenir n'importe où, parce qu'il y a quand même 20 fois plus de risques pour les personnes, les hommes noirs et les hommes arabes, d'être contrôlés par la police, donc de subir un profilage racial. C'est les informations. C'est sur les réseaux sociaux, les dingueries qu'on voit, les personnes qui sont refusées dans des restaurants. Enfin voilà, toute cette atmosphère-là crée ce racisme, c'est-à-dire que le racisme vicariant, on le vit indirectement. Et donc, qu'est-ce que ça fait ? C'est que les parents noirs ont pour rituel pas très joyeux de parler de racisme à leurs enfants dès le plus jeune âge, de prévenir. De dire qu'il faudra faire 3-4 fois plus, notamment si t'es une femme noire en plus, avec le sexisme, voilà, il y a autre chose qui se met aussi en place. Mais cette hyper-vigilance-là, ce besoin de s'adapter, on devient des génies de l'adaptation malgré nous. Et donc, on se sait déjà faire partie d'un bloc monolithique. On n'a plus le droit à l'individualité parce qu'on nous perçoit comme un bloc avec tous les préjugés que vous pouvez imaginer, tous les stéréotypes que vous pouvez imaginer. Et moi, ce que je dis dans le livre, c'est comment sortir, comment s'alléger de cette charge raciale, bah, notamment en ayant conscience de ce déni d'individuation qu'on s'impose à cause de la société, et d'aller chercher aussi cette singularité en nous pour arriver à autre chose, en tout cas s'alléger de ce poids-là.
On va en parler un petit peu plus loin. Et pour ce qui est de l'affaire d'Adama Traoré, la décision finale du dossier sera rendue le 16 mai. Pour ta deuxième actualité, Douce, tu voulais nous parler des actions mises en place pour lutter contre le génocide en Palestine, c'est ça ?
Oui, bien sûr, parce que je vous avoue que être en pleine promotion de ce livre, avec ce qui se passe, il y a énormément d'échos, et en même temps j'ai l'impression de vivre, de respirer un air qui est irrespirable, qui est toxique, notamment en France, où prendre la parole, et même à travers le monde, prendre la parole pour dénoncer en fait le génocide en Palestine, c'est potentiellement risquer de se faire virer, de se faire bannir, cancel, alors que quand c'est notamment des hommes qui font des atrocités, qui agressent sexuellement, qui violent, enfin voilà, il n'y a pas cette levée de bouclier, et pour dénoncer en fait quelque chose qui me semble d'une évidence, où les Palestiniens, il y a quasiment 30 000 Palestiniens qui sont morts depuis le 7 octobre, et la France envoie des armes encore. La France ne permet pas, en tout cas a mis très longtemps pour qu'il y ait des manifestations, qu'il y ait des marches en France pour justement lutter contre ce qui se passe. Pour moi, le fait qu'il y ait ces actions-là, notamment de boycott, de Carrefour, qu'il y ait ces marches-là, ça me donne vraiment espoir, et ça me fait encore plus, ça me fait encore plus me donner envie de défendre ce livre, parce que j'en parle de ça, j'en parle des corps, j'en parle de cette charge raciale-là, comment en fait nos corps sont perçus comme tuables, sont perçus comme des corps impolitiques qui sont à polir, que la mort doit polir en fait. Depuis l'esclavage jusqu'à nos jours, le sud global, donc voilà, les pays dits du tiers-monde, n'ont pas la même attention, n'ont pas la même empathie en fait, hein, selon les guerres, selon les conflits. On ne nous pleure pas de la même manière, et c'est ce que je dénonce en fait. Et ces marches-là, ça me rattache à cette humanité-là, ça me rattache au fait que oui, en effet, il y a des personnes qui se battent, on descend dans la rue, et on ne lâchera pas, malgré les menaces, malgré justement cette menace d'être effacée, de ne plus avoir accès à tel ou tel endroit. Enfin, moi, je veux avoir accès à mon humanité, et ces marches-là me le rappellent sans cesse.
Pour juste petite précision, les militants qui appellent au boycott de Carrefour dénoncent un accord commercial donc entre la chaîne et Israël. Have you waited so long till your unheard song has stripped away your very soul? Well then believe it, my friend, that the silence can end. We'll just have to get guns and be men. Mettre fin à la mise sous silence des luttes et des victimes, c'est le sujet de la chanson qu'on vient d'entendre, The End of Silence d'Hélène Brown, présidente du Black Panther Party de Auckland. Le silence est au cœur de ton ouvrage. Tu parles en particulier d'un contrat de silence imposé aux personnes noires. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus ?
Oui, en fait, je pars du constat du philosophe Charles Mills qui se rend compte qu'en fait, l'Occident est fondé sur un contrat racial. On a souvent pensé au contrat social de Rousseau. Et en fait, il se rend compte que, alors qu'on érigeait ce contrat social de civilisation, en fait, tous ces philosophes des Lumières fermaient les yeux sur ce qui se passait dans les empires, en tout cas les colonies des empires français, anglais. Et il se rend compte à quel point pour que l'Occident se pense comme civilisé, il fallait bien qu'il y ait des non-civilisés. Et je me suis dit, en fait, si ce monde est fondé sur un contrat de la race, et que c'est à cause de ce contrat-là qu'on subit le fardeau, qu'on subit un poids indicible, mais ça veut dire qu'au final, la charge raciale, elle porte en elle le silence, parce que c'est à cause du silence qu'on subit, qu'on a dû en fait conjuguer avec ce qui arrivait. Il y a eu des personnes qui ont résisté, évidemment, mais il y avait une ignorance en fait de l'Occident. Il y avait ce que j'appelle une épistémologie de l'ignorance, c'est-à-dire qu'on, nous en tant qu'enfants, on grandit, des enfants noirs, on grandit avec donc ce rituel-là où on doit faire attention, on nous prévient, on n'a plus droit à l'innocence. Et en fait, en face, les personnes blanches grandissent dans une sorte de rêve comme ça, illusoire, nappé de... Voilà, non, mais je trouve ça incroyable, en fait, les deux réalités qui s'entrechoquent. Et donc, pour moi, oui, le silence, ça me permet aussi de revenir à ma propre histoire, notamment avec le silence que j'ai eu enfant. Et ça me permet aussi de dénoncer en fait le bruit médiatique de la blanchité. La blanchité, c'est dénoncer, parler de choses qui n'ont pas d'importance, c'est regarder ailleurs alors qu'il y a un génocide qui se passe, c'est de ne pas comprendre que nos téléphones sont liés aussi à une guerre qui dure depuis 30 ans au Congo. Et c'est mettre l'accent sur des choses très futiles. Et quand nous, on ose dénoncer, quand on ose dire taper le poing sur la table, on nous fait comprendre que notre parole, elle n'est pas recevable, qu'elle est hystérique, qu'elle est agressive, qu'elle est infantile, qu'elle est victimaire. Et en fait, on ne fait que nourrir désormais ce bruit-là. Et pour moi, ça, c'est du silence. Ce bruit médiatique, c'est du silence. Et justement, j'en parle, je me dis, mais est-ce que le silence, ce serait pas aussi, paradoxalement, un moyen de nous, un moyen politique, en fait, d'imposer notre agenda et de nous retourner vers nous-mêmes, et d'avoir un silence qui répare, un silence communautaire. Oui, je dis le mot, j'emploie les termes. Un silence communautaire. Et pour nous réparer dans l'ombre, et pour qu'enfin on puisse dire, et plus seulement parler, parce que parler, en fait, qui écoute ? Moi, je veux qu'on dise les choses, mais pour dire les choses, il faut déjà retrouver cette individualité-là. Il faut déjà aussi avoir la foi inébranlable en nous-mêmes. Ce que ça veut dire de vivre l'expérience noire, de vivre l'expérience racisée.
Et justement, tu parles là d'intériorité. Toi, tu utilises le mot noirité. Est-ce que tu peux en donner ta définition ?
Oui, alors, je traduis blackness en noirité. Parce que je me rends compte qu'en fait, noirceur, c'est pas très utilisé en France, notamment dans les milieux noirs aussi. Je me dis, mais pourquoi il y a cette absence-là ? Et donc, je me suis posé la question de, voilà, est-ce que c'est de la traduction ? Est-ce que c'est de la négrophobie intériorisée ? Mais pas du tout. En fait, c'est juste que ce terme noirceur, il est enveloppé aussi d'une certaine identité de certains penseurs et penseuses afro-américains, donc qui s'appelle l'afro-pessimisme. Et donc de voir la noirceur comme quelque chose qui a changé le monde à jamais, et de voir dans la figure des personnes noires l'esclavage et une sorte de négativité comme ça existentielle, ce qui n'est pas faux. Mais moi je me dis, ça c'est un point de vue qui est situé donc aux États-Unis. Moi je me situe en Afrique. Ma noirceur elle éclot en Afrique. Et en fait pour moi la noirité, il y a quelque chose de l'ordre de la qualité derrière. Et quand je dis qualité, c'est pas forcément moralement positif. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas quantifiable. C'est une singularité, c'est une individualité qu'on porte en nous. C'est ce qui nous fait nous lever, justement. C'est ce qui fait que Assa Traoré et toutes les personnes qui se battent contre les violences policières et les injustices et les discriminations raciales ne lâchent pas. C'est cet espoir-là, en fait, que je trouve dans nos expériences noires. Donc, l'expérience noire, c'est le côté négatif, c'est-à-dire la manière dont on est perçu, mais il y a aussi cette part inébranlable en tant qu'être, en fait. Et donc, moi, je vais chercher là-dedans, je vais creuser là-dedans, et j'apporte ça aussi comme solution à cet allègement de la charge raciale.
L'heure a sonné, celle de notre jeu adoré, d'où tu détiens désormais le ciel, la terre, la société, même les configurations célestes entre tes mains. J'y suis allée fort là. Tu as une minute pour nous dire tout ce que tu souhaiterais changer dans l'univers. C'est parti, Douce, à toi de nous décrire ton monde rêvé.
Ah, mon monde rêvé, je le souhaite sans sexisme, sans racisme, sans tous les ismes, sans validisme. Je le souhaite lié en fait au niveau local. Je le souhaite sans travail, sans salaire. Je le souhaite plein d'art. Je le souhaite entouré de nature, évidemment, et évidemment où les frontières n'existent pas et où la police n'existe pas. Bref, je veux qu'advienne enfin l'utopie. Et je pense qu'on est en train tous de travailler à ce que cette utopie advienne.
Waouh, une minute record, moins d'une minute, un monde sans aucun isme ni frontière qu'advienne l'utopie. Merci Douce. C'est la fin de cette édition. Merci Douce d'être venue nous voir. Ton livre La charge raciale, vertige d'un silence écrasant est à retrouver aux éditions Fayard dans toutes les bonnes librairies. Merci à vous tous et toutes qui nous écoutez en podcast sur notre site sogoodradio.fr ou sur les plateformes d'écoute. Et on se quitte sur une chanson que tu as choisie. Tu es le maître d'Expeka. En quelques mots, pourquoi cette musique ?
Tu es le maître.
À très vite sur So Good Radio. Salut Douce, salut tout le monde.
Salut.
Baissez les yeux,
j'ai baissé les yeux,
écoutez le maître.